Tout un sujet ce matin, hein? La tour de Babel. Imaginez, ça fait un mois que je sais que je vais parler là-dessus. Et puis avant ça, j'avais une semaine de me préparer, mais là, j'ai un mois. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de matériel, beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est tout un sujet. Et vraiment, on a besoin de retourner en arrière et aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là qui ont changé l'humanité, si on peut dire. Alors, la tour de Babel, c'est le chapitre 11, mais au chapitre 10, avant, on a un portrait de la table des nations, ce qu'on appelle la table des nations. C'est-à-dire que les fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, se sont dispersés sur toute la terre, hein? Il y en a qui sont partis de il manque des affaires. OK, mais c'est... Alors, on a Japhet, Sem et Cam. Japhet est allé plus vers l'Europe, Sem plus vers l'Asie, Cam plus vers l'Afrique. Alors, voilà les clans des fils de Noé selon leur lignée, dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Alors, le chapitre 10 nous donne le portrait de la terre qui s'est... les fils de Noé qui sont dispersés partout sur la terre. Et il y a un fil conducteur dans ce que je veux apporter ce matin, c'est la langue. Dieu a créé l'homme à son image. Et une des façons qu'on ressemble à Dieu, c'est la parole. On est capable d'entendre, on est capable d'écouter Dieu. Ce que les animaux, par exemple, ne peuvent pas faire. On a été créé à l'image de Dieu, on a cette capacité-là d'entendre Dieu parler, d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, hein? D'avoir une relation personnelle avec Dieu, d'entrer en relation, d'aimer Dieu. Et une deuxième faculté, ou c'est la faculté pas juste d'entendre, mais aussi de parler. Adam a nommé les animaux, hein? Comment il les appellerait? Tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. L'homme a le pouvoir de parole, de nommer les animaux sur la terre. Alors, capable aussi d'avoir une relation intime avec Ève, sa femme, d'avoir une relation intime non seulement avec Dieu, mais d'avoir une relation intime les uns avec les autres, mari et femme. La langue, c'est quelque chose de précieux, c'est un don spécial que Dieu nous a fait, qu'on soit capable de communiquer avec Dieu, qu'on soit capable de communiquer entre couples, entre humains, entre êtres humains. Et je pense que ça vient du souffle vital, ça vient de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a soufflé sur Adam, il a donné la capacité de parler. Alors, deuxième fil conducteur, on a été créé à l'image de Dieu, donc capable d'avoir des relations avec Dieu, capable des relations humaines, les uns avec les autres. Et un peu plus loin, lorsqu'on avance, une autre raison pour laquelle on ressemble à Dieu, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Avoir une relation intime avec lui et qu'on domine, hein? Qu'on soit fécond, qu'on se multiplie, qu'on remplisse et qu'on soumette la terre. Le mot « dominer », il y a plusieurs traductions. Il y a qu'il règne, qu'il soit les maîtres, qu'il commande, qu'il soumette. Dieu nous a créés pour qu'on règne sur la terre, qu'on domine sur la terre. Un autre besoin. Quels sont les besoins fondamentaux des êtres humains? On a besoin d'amour. On va le trouver en Dieu et on le trouve avec notre femme, avec nos enfants, avec les autres êtres humains sur Terre. Et il y a un autre besoin là, qui est mentionné, un besoin de valeur. On a besoin de faire quelque chose qui a de la valeur. Hein? Et ce besoin-là, il est comblé lorsqu'on travaille. Adam et Ève ont été créés pour essayer de continuer l'œuvre de Dieu, de se joindre à Dieu dans son œuvre et faire de la terre un paradis. La raison pour laquelle Adam et Ève ont été créés, c'est pour faire de la terre un paradis, de remplir la terre et d'en faire un paradis. Dieu voulait partager sa vie divine et voulait la partager avec l'être humain. Il nous a rendus participants de la nature divine. On a ce privilège-là de partager la vie de Dieu. Dieu, je ne dis pas qu'il s'ennuyait, les trois ensemble, mais il a décidé de créer l'homme pour partager cette vie divine-là avec nous. Il lui a donné le pouvoir de régner en son nom, si on peut dire, sur la planète. Pas le pouvoir de détruire, pas le pouvoir de polluer, pas le pouvoir d'écraser les autres êtres humains, mais le pouvoir de glorifier le nom de Dieu sur la planète. Et on connaît la suite. On a déjà regardé la chute ensemble. La chute, c'est simple. On met ce que Dieu dit de côté, on met sa parole de côté et on décide de faire selon ce qu'on pense. Hein? On décide de combler nos besoins d'amour et de valeur, mais Dieu dehors. Foncièrement égocentré. L'être humain, à partir de la chute, est devenu foncièrement égocentré. Tout tourne autour de mon petit moi ou de mon gros moi, selon les personnes. Il y en a qui ont des petits égos, il y en a qui ont des gros égos. Mais on a tous des égos qui sont vides ou qui sont pleins. Et on voit la rapidité avec laquelle Ça avance plus? Ah, et voilà. Ah. Voyons. OK. On voit la rapidité avec laquelle cette méchanceté-là, cet être-là, être humain égocentré, va se répandre sur la terre sans frein, sans limite à la corruption, sans limite à la méchanceté. Et Dieu va y mettre fin par le déluge. L'humanité n'a pas été entièrement détruite. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu a choisi un Noé. Hein? Noé obtint la faveur de l'Éternel, la grâce de l'Éternel. Un homme juste et intègre, Noé marchait avec Dieu. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Alors, il restait un être humain sur terre, une famille sur terre qui n'était pas emportée par la corruption, par la méchanceté, par la violence. Et Dieu les sauve. Et là, on a un nouveau départ. Et devinez ce que Dieu dit à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Adam et Ève? Hein? On repart l'humanité à zéro. On repart à neuf, si on peut dire. Alors, Noé, sa famille, on recommence à neuf. La vieille humanité corrompue, méchante, est ensevelie sous l'eau. Mais malheureusement, la vieille nature pécheresse, la vieille nature humaine, la chair a réapparaît, c'est pas long, et elle reprend le dessus. Le Noé qui marchait avec Dieu, le Noé qui est sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Souvenez-vous? Se saoule, s'enivre, hein? Et c'est reparti. Et ça donne la table des nations, comme on l'a vu. Et le chapitre 11 vient expliquer toutes ces nations-là qui ont été dispersées dans le monde. Alors, c'est une longue introduction pour la tour de Babel, mais je pense que c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, Dieu crée l'être humain à son image, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec lui et les uns avec les autres, besoin d'amour. Et il le crée à son image parce qu'il veut partager ce règne-là sur la terre avec nous. On a besoin d'amour, besoin de valeur, des besoins fondamentaux. Et là, on arrive où toute la terre est encore ensemble. Ça, c'est pour expliquer la terre qui a été divisée. Toute la terre est encore ensemble. C'est écrit qu'ils ont un même langage. Littéralement, le mot en hébreu, c'est les mêmes lèvres. Alors, peut-être ça parle de la mécanique là, du langage à l'époque et les mêmes mots, c'est-à-dire les mêmes paroles, le même vocabulaire. Toute la terre, à partir de ce moment-là, avant la division, ils sont partis de l'Orient, ils sont en marche, ce sont des nomades. Est-ce qu'ils obéissaient à l'ordre que Dieu avait donné à Noé de remplir toute la terre? Consciemment ou inconsciemment, en tout cas, jusque-là, c'est ce qu'ils font. Et là, ils trouvent une vallée probablement fertile, et puis des nomades qui sont habitués de vivre sous des tentes, qui se déplacent. Hein? Le matin, ils partent, puis ils campent le soir, puis ils passent quelques jours à un endroit. Et ils arrivent là, puis ils décident d'habiter. Hein? C'est écrit qu'ils habitent. Ils s'établissent à cet endroit-là, à Shinéar, et ils s'installent là. Et puis, je pense qu'ils commencent à avoir... commence à avoir du fun, là. Commence à... Hein? Certains conforts, une certaine sécurité, un certain plaisir. Il était toujours en déplacement. Puis là, il trouve une place qui est agréable à vivre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Alors, supposons que vous êtes ce peuple-là, et puis on va tous dire ensemble, allons, faisons des briques, et cuisons. Ça manque de conviction, là. Hein? Vous êtes le peuple, vous êtes des nomades, vous traversez dans le désert, et ils se disent l'un à l'autre, cuisons-les au feu, hein? Alors, ils vont mettre leur génie à faire quoi? Bâtir une ville. Bâtir une ville, ça peut avoir du bon sens. Je peux comprendre, bâtir une ville. Mais une tour. Ils mettent tout le monde est mobilisé, là. Je ne sais pas combien de milliers de personnes pouvait y avoir. Mais tout le monde est mobilisé, on met toutes nos ressources en commun, toute notre énergie, nos talents, notre temps, à bâtir une tour. Une tour dont le sommet touche au ciel. Pas une tour d'habitation, là. Hein? C'était pas un centre commercial ou une tour à bureau. C'était une tour, juste une tour. Et leur motivation, c'était « faisons-nous un nom ». La raison pour laquelle ils bâtissaient cet immense projet-là, c'est « faisons-nous un nom ». Hein? Un monument. On va bâtir un monument consacré à la grandeur peut-être de notre génie, notre intelligence, notre pouvoir, notre puissance. On va bâtir une tour qui va être comme un pôle d'attraction. On va pouvoir se rassembler là, quelque chose de visible, quelque chose d'extraordinaire. On crée une bâtisse qui va être extraordinaire, qui va se perdre dans les nuages, hein? Peut-être le début de l'idolâtrie, peut-être le début de... Hein? Par la suite, les êtres humains vont créer des temples, des pyramides, des ziggourats. Mais ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Hein? Peut-être c'est la religion, la première religion. On invente un moyen d'aller au ciel par nos propres forces. C'est ça la religion. On s'invente un moyen pour aller au ciel par nos propres forces. Et en même temps, c'est un cri de ralliement. Hein? On reste ici. On se plante ici. Hein? Fini. Le message de la tour de Babel, là, c'est fini. On ne sera pas disséminé à la surface de la terre comme depuis le début, mais on reste planté ici. Tiens, Dieu, ton plan pour notre bonheur, là, la tour, là, je ne le ferai pas, là, mais c'est un finger. C'est un doigt d'honneur à la face de Dieu. Visible jusqu'au ciel. Dieu va comprendre que c'est fini. C'est fini son plan de nous disperser par toute la terre. Nous, on décide de planter notre tente ici, de planter notre tour ici. Et on lui fait un gros finger. J'ai cette image-là depuis quelques semaines. Ouais. Le plus grand défaut de la tour, c'est quoi? Le génie humain? Hein? Est-ce que c'est un défaut, ça? Non, on a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le génie humain qui est le défaut. Hein? Ce n'est pas l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se met ensemble. Ce n'est pas ça le défaut. C'est quoi le défaut? Dieu dehors. On met Dieu dehors. Hein? C'est l'humanisme avec un grand H. L'être humain se fait Dieu. Hein? Et on met Dieu dehors. À partir de ce moment-là, Dieu est disparu de nos vies. Il ne fait plus partie de nos priorités, de nos occupations, de nos préoccupations, de nos passions, de nos pensées, de nos actions, de notre mission. On met Dieu dehors de notre vie. Qu'est-ce que cette tour-là symbolise? Qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente le monde qui occupe toute la place dans ma vie et il n'y a plus de place pour Dieu. Dans notre projet d'être heureux, dans notre projet d'avoir de l'amour, d'avoir de la valeur, on a mis Dieu dehors et on dépense toute notre énergie dans ce que j'appelle la tour de Babel. La tour de Babel. Pour ceux qui sont nouveaux Québécois, est-ce que vous savez c'est quoi des Babel? Vous n'avez jamais entendu ça encore? Des Babel. C'est quoi des Babel? Des choses qui sont vraiment le fun, mais complètement inutiles. Des choses insignifiantes, hein? Des bébelles. Est-ce qu'on est en train de bâtir une tour de Babel? Ça a changé depuis, hein? Depuis la tour de Babel, l'être humain a changé, il a compris. Ben non, hein? On est en train de bâtir une belle tour de Babel. Entre parenthèses, j'ai regardé l'ouverture des Jeux olympiques, là. Ça ressemble à ça pas mal. Hein? Et j'ai rien contre les Jeux olympiques. Mais quand ça prend la place de Dieu, quand ça glorifie l'être humain sans Dieu, ça, j'aime moins ça. Alors, c'est écrit que l'Éternel descend. Hein? L'Éternel descend. Pensez-vous qu'il a utilisé la tour? Ah, les êtres humains ont fait un escalier, moi. Peut-être qu'il m'invite à participer à leur... Hein? Pas sûr. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand il dit « l'Éternel descend » Je pense qu'il est en train de dire « je me mets à leur place, je m'en vais me mettre à leur niveau. » Et plus tard, on va voir que Dieu va descendre à notre niveau, va se mettre à notre place. Et il va venir vivre avec les êtres humains, habiter avec les êtres humains, parce qu'il a à cœur les êtres humains. Alors Dieu descend parce qu'il veut voir les êtres humains, parce qu'il aime les êtres humains. Il veut voir que c'est pour... S'il descend, c'est pour son bien, c'est pour le salut. Hein? On lui fait un doigt d'honneur et Dieu descend dans sa grâce pour essayer de nous venir en aide, essayer de nous arracher à cette folie-là qui allait détruire la terre encore une fois. Au lieu de le laisser s'enfoncer dans son malheur, Dieu visite, Dieu descend, puis décide de freiner leur folie. Hein? Il n'y a pas de limite à là où ils vont aller. Alors comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a confondu les langues, les langages? Est-ce que c'est les mots? Tout à coup, il y avait d'autres mots? Est-ce que c'est le vocabulaire, un nouveau vocabulaire, ou c'est la mécanique des accents, des lèvres? Le cerveau, il est formidable. On peut apprendre intuitivement. C'est formidable. Le bébé qui sort du sein maternel, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, puis après ça, il tape. Hein? On a cette capacité-là. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, mais un petit exemple de la capacité du cerveau humain d'apprendre. Quelqu'un peut lire ça? Levez la main, ceux qui sont capables de lire. D'autres, c'est la première fois, ça peut être un peu plus long. Quelqu'un veut essayer une ligne? Ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adapte rapidement. Au commencement, c'est difficile, mais maintenant, vous y parvenez sans difficulté. Cela prouve à quel point votre cerveau lit automatiquement, sans effort de votre part. Soyez fiers, certaines personnes en sont incapables. Partagez si vous avez réussi à lire ce texte. C'est quoi cette langue-là? Hein? J'ai un petit garçon de 3 ans. Mon garçon, moi, le premier. À un moment donné, il a reconnu les M de McDonald's. Puis il voyait des M partout. Et j'ai dit, tant qu'à continuer, montrer l'alphabet, je suis allé chercher le livre de première année pour enseigner le français, livre de français de première année. 30 leçons. Il sautait sur mes genoux à chaque soir. On a fait une leçon par soir. 30 jours plus tard, il était capable de lire. Il lisait les histoires à son frère et à sa sœur. La capacité là, du cerveau humain, c'est assez phénoménal, n'est-ce pas? Alors, ça a marché. Comment est-ce que ça s'est produit exactement? Quelle mécanique qui s'est produit? Je ne sais pas, mais je sais que le cerveau, lorsque Dieu... touche le cerveau d'une personne, il y a des choses assez formidables qui peuvent se produire. Alors, est-ce que ça a marché lorsque Dieu a confondu les langues? Ça a marché, n'est-ce pas? Ça a mis fin à leur plan de désastreux qui allait causer leur malheur. Et ils sont dispersés sur toute la surface de la terre, même si c'était peut-être malgré eux, même si c'était contre eux. Alors, et c'est de Babel que sont sorties toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations. Et là, je vous transporte quelques milliers d'années plus tard. On arrive à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À Babel, toutes les nations sont dispersées. À la Pentecôte, toutes les nations sont réunies. Un hasard? Les disciples sont remplis de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils parlent d'autres langues. Là, ce sont des Galiléens, là. Chacun les entend parler dans leur propre langue maternelle. À Babel, Dieu confond les langues et disperse tous les peuples. À Jérusalem, Dieu parle dans toutes les langues et réunit tous les peuples en un seul peuple. C'est la tour de Babel renversée. Hein? Et quel est le résultat? 3000 personnes baptisées ce jour-là, durant ce temps-là. Alors, comment des Galiléens qui habitent un coin perdu de la planète, là, du monde bien ordinaire, qui ne sont probablement jamais sortis de la Galilée. Je suis allé en Galilée. La Galilée, c'est la campagne, là. Hein? C'est un coin perdu. Il n'y a pas d'érudits là-dedans. Il n'y a personne qui avait étudié pour apprendre les langues. Et ils se mettent à parler dans 15 langues différentes. 15 langues différentes, hein? Oups. Alors, je les ai mis tantôt. Oui, la carte avec les 15 langues. Des gens qui étaient là à la Pentecôte se sont mis à parler dans un langage complètement ignorant. Si je me mettais à parler en chinois ce matin, en persan, hein? Il y en a une qui serait très contente. En créole, en swahili, en espagnol, en anglais, hein, si je me mettais à parler anglais, un miracle. Qu'est-ce qui se passe avec Michel? Je parle un peu, là, mais... C'est un signe miraculeux, un signe surnaturel. C'est une intervention directe de Dieu, sans explication humaine. Il n'y a pas d'explication à ce phénomène-là. Ça dépasse toutes les capacités normales d'un cerveau humain. Miracle extraordinaire. Mais plus que ça, c'est un miracle en soi. D'être capable de parler dans une langue étrangère, c'est un miracle extraordinaire en soi. Mais c'est quoi le but? Pourquoi on parle en langue? Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé en langue, en tout cas à cette occasion-là? C'est simple. Jésus l'avait promis. Hein? Jésus l'a promis. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à partir de la Pentecôte, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu maintenant, va se rendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la réalisation de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins, et vous allez répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les langues, hein? Toutes les nations, par tout le monde, à toute la création. Même mandat que Adam et Ève, même mandat que Noé, même mandat qui sont faits aux disciples. Aller répandre le règne de Dieu sur toute la terre. À partir de ce moment précis-là, à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu d'une façon spéciale dans le monde. Comme Jésus à Bethléem, le Saint-Esprit est venu à ce moment-là. Et Dieu s'est révélé, il a parlé la langue maternelle de tous les peuples sur la terre, de toute la création. Ce n'était plus un privilège qui était réservé à un seul peuple dans une seule langue. L'Évangile, maintenant, allait être parlé, allait être enseigné, allait être prêché à toute créature sous le ciel. Ce jour-là, la prophétie de Joël, ça avait été prophétisé. Hein? Joël l'avait prophétisé. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, pas juste les Juifs. » Toutes les nations, toutes les langues. Alors, quiconque, peu importe sa race, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En ce jour-là, il fera ajouter 3000 personnes. Pas de « wow » Pas de « amen » Hein? Les langues sont un signe que Dieu parle maintenant à toute la planète, à tous les gens sur la terre. Il se révèle à eux dans leur langue. 1 Corinthiens 14, il parle que il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est qui ça, ce peuple? Hein? C'est un signe pour qui, les langues? C'est qui ce peuple-là? Les Juifs. Quels Juifs? Ceux qui refusent d'écouter la parole, même quand c'est le Fils de Dieu qui vient sur terre pour leur parler. Alors Dieu dit, je vais me tourner maintenant vers ceux des nations qui veulent écouter ma parole. Puis je vais leur parler dans leur langue. Hein? Alors, c'est un signe que le cœur s'est endurci, qu'on ne reçoit pas, on n'entend pas quand Dieu parle. Hein? Même quand c'est le Fils de Dieu qui parle. Alors, moi, je veux parler, Dieu dit, je veux parler dans les langues étrangères. Et Dieu se tourne vers les nations. Et il rassemble son peuple, pourquoi? Nous avons tous, pas quelques-uns, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. C'est quoi le plan de Dieu? Le but du baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on bâtisse? Une tour? Un édifice? Un temple saint? Pourquoi est-ce que Dieu nous a rassemblés là, de toutes les nations? L'oasis en est un beau portrait, là. Hein? On a-tu 15, on a probablement 15 nations rassemblées? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi vous êtes là, vous pensez? Bâtir une tour de Bébel? Bienvenue au Québec, bâtir votre tour de Bébel? Vous êtes là pour bâtir l'Église de Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu depuis tout le début. Hein? Alors, autour de Babel, ça soulève une question fondamentale. Là. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi, Michel, est-ce que tu es sur terre? Pourquoi, Seigneur, je suis encore sur terre? J'ai fini, je suis en retraite, là. Hein? Pourquoi je suis encore là? À quoi est-ce que je vais consacrer, m'a passé mon temps maintenant? Mon énergie, mes talents? Où est-ce que je vais investir mes richesses? Où vont aller mes désirs, mes rêves? Et je me pose la question. Est-ce que je suis là pour me bâtir une tour de Bébel? Une retraite de Bébel? J'ai rien contre les bébelles. Attention. Ça peut avoir son utilité, ça peut avoir sa place et ça peut être très sain. D'avoir des loisirs, d'avoir du repos, d'avoir du fun, juste pour avoir du fun. On a besoin de décrocher, on a besoin de... Hein? C'est légitime. Mais lorsque ça prend toute la place, puis il n'y a plus de place pour Dieu, oh là, on n'est plus dans le... On n'est plus dans la vraie vie, là. On a gobé le mensonge du diable. Profite de la vie, va trouver ta valeur, va trouver l'amour que tu as besoin, va trouver ça ailleurs qu'en moi. Alors, par nature, l'être humain, qu'est-ce qu'il a besoin? Je veux à tout prix être heureux. Je veux à tout prix être heureux. C'est quoi j'ai besoin pour être heureux? L'amour, la valeur, faire quelque chose qui a de la valeur, n'est-ce pas? Malheureusement, on a cette nature, ou nous avions cette nature déchue, cette vieille nature, la chair stupide, qui va chercher continuellement son plaisir, satisfaction dans tout ce qui a l'air bon, même si ça ne vient pas de Dieu. Sans se soucier de Dieu, je pourrais dire. Pire, on est en train de faire un finger à Dieu. Je dis, tiens Dieu, ton plan pour mon bonheur, ton plan pour le bonheur de l'humanité. Hein? Puis après, on lui reproche que ça va mal dans le monde. Alors, mes frères, mes sœurs, il y a juste une intervention de Dieu, miraculeuse. Il y a juste la puissance du Saint-Esprit, ce baptême-là qu'on a vu tantôt, qui va descendre sur nous, Dieu qui descend, la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous, la puissance de sa parole qu'on entend ce matin. Hein? Oubliez Michel, là, puis écoutez Dieu. Peut-être qu'il dit des niaiseries, peut-être qu'il dit des bêtises, mais peut-être qu'il dit des choses que tu as besoin d'entendre ce matin. Dieu seul peut, par son Saint-Esprit, changer mon cœur. Créer un homme nouveau, avec un cœur nouveau. Puis ça va faire un changement radical dans mes priorités dans ma vie, dans les choses que je veux faire dans ma vie. Quelle est cette puissance-là qui va faire que je vais être capable de détruire ma tour de Babel? Mais je vais le faire parce qu'il y a quelque chose qui va être plus satisfaisant, quelque chose qui va être plus valorisant, qui va être plus payant, qui va être plus durable, qui va être bien meilleur que toute cette énergie-là que je gaspille à bâtir ma tour de Babel. Je vais changer, là, hein? Les vieilles feuilles, là, ils tombent de l'arbre quand les nouvelles poussent. Alors, trouvons ces nouvelles façons d'être, de vivre, qui vont remplacer les vieilles façons de vivre qui sont peuvent être bien légitimes, si on peut dire, mais qui ne servent à rien. Hein? Dans quoi est-ce que je veux investir plus que tout? Moi, Michel, là, dans quoi est-ce que je veux investir plus que tout sur cette terre? Bâtir ma tour de Babel ou bâtir l'Église? L'Église est parfaite? Non, hein? Marc, il l'a dit, une Église inconfortable. Hein? Si on était inconfortable, on était à bonne place. Parce que peut-être Dieu veut prendre cet inconfort-là pour nous changer. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples, Jésus? Lâchez tout. Suivez-moi. Il m'a dit ça personnellement avec Lise, il y a 40 ans. Lâchez tout, puis suivez-moi. Je regrette-tu? Pas une minute de ma vie. Hein? Pas une minute. Lâchez tout. Quand Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi », puis il a sauté en bas de la barque. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a marché sur l'eau. Ça te tente-tu de marcher sur l'eau cette semaine? C'est quoi que Dieu veut que je fasse, là, qui est peut-être surhumain, peut-être c'est quelque chose que... Hein? As-tu le goût d'apprendre à marcher dans cette vie chrétienne-là? On est venu chacun de toutes les nations. Et on va prendre quelques minutes. On va faire un bilan. Bilan des pratiques spirituelles. Alors, on a entendu un message qui, j'espère, va nous faire réfléchir. La question, c'est est-ce que je suis en train de bâtir ma tour de Babel? Mais comment je peux bâtir l'édifice de Dieu? Comment je peux mettre mon... Et on va remplir un sondage. Avec des crayons. Si vous n'avez pas de crayon. Alors, c'est rapide. Et le but de ça, c'est pas « Oh, je me sens coupable » ou « Je pratique pas ces choses-là ». Le but, c'est « Hey, Seigneur, je veux marcher sur l'eau. Seigneur, je veux goûter à cette nouvelle vie que tu me donnes. » Ces nouvelles expériences, ces nouvelles pratiques dans la vie chrétienne. Alors, rapidement, et puis on va les ramasser ensuite. Puis ça va nous donner un bilan de notre, on pourrait dire, notre état ou... Qu'est-ce que je peux faire pour bâtir l'oasis, qui est le plan de Dieu? Ou qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que j'aimerais faire? Pardon? Là, je suis aîné, là. OK, quand vous avez terminé, on va les plier les en deux. On va les ramasser dans la... Et pendant qu'on termine, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Juste un petit conseil, peut-être que si dans les pratiques, s'il y a des choses que vous aimeriez, un endroit où vous aimeriez commencer par votre rendez-vous avec Dieu. Et là, demander à Dieu, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour bâtir ton Église ici? C'est là que ça commence, dans la prière, dans le rendez-vous avec Dieu. OK, on va prier. Seigneur Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. On sait que tu n'as pas besoin d'une tour pour descendre, que tu as déjà descendu parmi nous. Par grâce, par pure grâce, tu aimes les êtres humains, tu nous aimes, Seigneur Dieu. Et ton désir, c'est qu'on se mette tous ensemble, qu'on emploie tout notre génie à bâtir ton Église, Seigneur. Ce temple de Dieu, cet édifice à la gloire de Dieu. Seigneur, tu as attiré des gens de toutes les nations dans cette Église, l'Oasis. Seigneur, tu as attiré des gens parce que tu as un plan, parce que tu as un but, Seigneur. Et si nous mettons toutes ces pierres précieuses ensemble, nous allons bâtir un édifice qui va être à la gloire de Dieu, qui va resplendir, qui va glorifier ton nom à partir de Cloverdale, dans tout l'ouest de l'île et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et nous éclaire ce matin sur c'est quoi la vraie vie, dans quoi est-ce que je peux m'investir pour avoir la vraie vie. Alors, Père Céleste, je te remets chaque personne ici dans tes mains. Et je sais, Seigneur Dieu, que tu les aimes, que tu vas les conduire, que tu vas mettre dans leur cœur d'accomplir des choses pour toi. Alors, merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu ensemble. Amen.